Je vous propose de lancer la discussion et on fait un tour comme ça de questions et puis ensuite Raquel va répondre. Qui se lance en premier?
Alors moi je m'appelle Jésus, je suis galicien. Je suis très heureux d'entendre la dame, je vais lire son livre parce que ça me passionne. La révolution portugaise a été pour moi un miroir. J'aimerais que mon pays la fasse aussi et la passe. On va attendre un peu. Mais il y a un truc qui m'interpelle dans tout ce que vous dites. Vous ne touchez pas la justice. Je ne sais pas si dans le livre vous la touchez, mais là, dans votre exposé, vous touchez tous les métiers, toutes les choses, mais pas l'administration de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne sais pas. Parce que si je compare avec la mal appelée transition démocratique espagnole, où le dictateur a programmé, a dit ce qu'il fallait faire, donc vous serez tout démocratique, mais pour exemple, la justice, vous ne la touchez pas. Vous changez le nom des tribunaux, au lieu de s'appeler tribunal du mouvement national, va s'appeler tribunal suprême. Mais les juges sont les mêmes encore aujourd'hui. Ça s'entend après. Il y a des juges qui étaient déjà à l'époque. Ouais. C'était des jeunes fascistes qui étaient des juges, et les juges sont des vieux fascistes. Ils sont tués. Et c'est pour ça que peut-être l'Espagne va connaître maintenant une catastrophe. Parce ouais. qu'ils ne savent pas gérer. Ils ne sont pas évolués. Et la démocratie, s'il a existé un peu, c'était purement imaginaire, purement. Les gens, comme vous dites, se sentaient bien et ils disaient, bon, il y a la prospérité économique, on va y aller. Ouais. Mais moi, j'aimerais avoir votre vision sur comment en Portugal, à cette époque, la justice a été, parce que je pense que sans la justice de ce côté, les révolutionnaires n'ont aucune chance.
Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.
Bravo pour votre livre.
Merci.
Oui, alors... Je m'appelle Philippe Machinaro. Merci aussi beaucoup pour la conférence qui a donné un éclairage hyper intéressant. Du coup, toi, tu as fait l'effort de parler en français. Peut-être que moi, je fais l'effort de parler en portugais. Désolée pour les francophones. Portanto, Philippe Machinaro, obrigadinho pela conferência, era super interessante. Cada vez que participo a uma atividade da Associação de Singapur, peço quase desculpa de ter nascido depois da Revolução em 79 e que continuo a tentar perceber como é que se passou essa Revolução, de onde é que vem, de quais movimentos saí, finalmente, mesmo se foi depois. E para continuar a tentar perceber, queria fazer três perguntas. A primeira é... Se tu ou você tivesse que nomear uma coisa que não funcionou durante a Revolução, qual seria? Se tivesse que nomear uma coisa que ficou e que ainda se vê hoje no nosso país, qual seria? E finalmente, quando vejo a situação de Portugal hoje, tivemos também uma conferência de um sindicalista que vinha dizer que as crianças hoje em Portugal tinham fome, deixavam os restaurantes escolares abertos durante as férias porque as crianças tinham fome e que ao menos assim tinham uma refeição garantida através dos serviços públicos. E o que me magoou muito, quer dizer, que achei que era uma loucura impossível. E portanto, a última pergunta seria: o que é que falta hoje para recomeçar?
Philippa, tu veux pas juste nous nous les faire en cours, mais...
Qu'est-ce qu'il y a merdé?
Ouais, ça j'avais compris, c'est la deuxième, j'ai pas compris.
La deuxième,
pas beaucoup merdé.
La troisième, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on recommence?
Ok, merci Philippa. Ouais. Qui d'autre? Oui. Il a disparu. Chut, on reste concentré.
Manuel Fernandeiro. Merci pour la conférence aussi, parce que c'est très important. Je ne suis pas non plus entré en contradiction par rapport aux événements qui sont passés à l'époque. Il y a juste un petit souci que j'ai, c'est que pour moi, c'est mon opinion personnelle, la résolution portugaise, elle n'a pas terminé. Mm-hmm. Elle a été interrompue le 25 novembre, comme vous dites, par un groupe lié au PS et à d'autres mouvements, lidéré par le groupe dos Novos, ça s'appelait comme ça, le groupe des Neuf, qui était. Qui ne voulait plus que le procès révolutionnaire en cours, le PREC, continue. Et dans le procès révolutionnaire en cours qui a été interrompu, il y avait cette liaison entre les travailleurs, les soldats, les paysans, et puis ça, c'était très important. Alors Jésus pose la question, comment il faut faire? Eh bien, il faut faire revenir avec cette organisation. Il faut que dans tout le pays, l'Amérique latine, Portugal, Suisse, qu'il y ait la discussion et qu'il y ait l'organisation des travailleurs autour des commissions, comme vous dites, au niveau de l'habitation, au niveau du travail. Sinon, eh ben, le capital, il faut pas penser le fasciste, il ne dort pas. Nous, peut-être qu'on a commis cette erreur, c'est-à-dire la révolution, elle est en marche, la révolution, elle est faite, et Carlucci, c'était l'ambassadeur à l'époque des États-Unis, au Portugal, il manœuvrait très bien, il attendait, il a attendu, il est arrivé le moment, paf, le procès, la révolution portugaise, elle est terminée. Donc, je ne sais pas si vous pensez, comme moi, qu'il faut remettre tout en cause, chaque moment, profiter de toute cette réunion, de petites manifs, maintenant on parle de climat, peut-être profiter de ces moments, il y a toujours des moments importants dans la vie des personnes, pour qu'on puisse s'organiser dans le sens de recréer à nouveau la révolution qui a été interrompue. Voilà.
Merci. Merci à vous.
D'autres questions?
S'il n'y a pas,
on fera un deuxième tour.
La question, c'est si vous pensez que vous avez cette pensée la même. Moi, pour moi, elle n'a pas terminé cette révolution. Elle a été interrompue. Parce que vous pensez la même chose.
Il faut peut-être dire quand même qu'au départ, il y a les militaires. Mm-hmm. Qu'on fait la révolution, c'est lequel il n'y aurait pas eu le reste. C'est parti d'un problème. Quand le gouvernement a voulu que des miliciens passent aussi bien que les soldats professionnels, comme au début, les militaires qui ont fait la révolution magistrale, quand même. Mm-hmm. Il ne faut pas l'oublier, non? Mm-hmm. Sans eux, il n'y aurait pas eu le processus dont vous avez parlé.
S'il n'y avait pas l'écologie, vous n'aurez pas vu la révolution.
Tout à fait, c'est ça qui a.
Il n'y avait pas
comprimé la dynamique.
Il n'y avait pas le problème d'écologie, de la voix des jeunes, précisément. Bon,
parce que le point de départ, c'est un conflit corporatiste des militaires, au départ.
Au départ, oui. Ouais. Mais après, c'est devenu.
Il faut pas l'oublier. Dynamique.
Mais si on pousse la réflexion pour plus loin, on dirait que c'est les guerres de résistance anticoloniale. La guerre de libération des peuples africains concernés qui ont aggravé la situation et qui ont poussé à cette révolution.
Oui,
parce que c'était une situation sans issue. Ils avaient compris, ces officiers. Effectivement,
oui, c'est sûrement là.
C'est grâce à eux que.
Ce sont les capitaines qui ont fait la révolution.
C'est la route donc qui a fait les montées de base. Il n'y aurait pas le problème des colonies, je pense.
Est-ce qu'on peut peut-être laisser Raquel répondre? J'ajoute juste une question. Tu as parlé du Chili. Et j'ai vu ce magnifique film, documentaire, etc., qui s'appelle, je m'excuse pour la prononciation, Otro País.
Ah, très bien, très
qui est magnifique. Oui. Et il y a un passage du film, justement, où il dit, mais finalement, 73, c'était comme si c'était la fin, la vague morte de la révolution, hein, le coup d'État au Chili, etc. Et tout à coup, le Portugal sort. Donc, quel est, selon toi, l'impact de quelques qu'a eu finalement cette révolution portugaise que tu as très bien analysée sur l'ensemble des pays, en tout cas alentours européens, et puis quel type de, un peu pour reprendre ce que disait Philippa, quel type d'enseignement on peut en tirer aujourd'hui? Je te laisse répondre.
Donc, il y a beaucoup de questions. merci beaucoup. Donc la justice, c'est un secteur au Portugal où il n'y a pas, nous avons une mot portugaise, je ne sais pas traduit par c'est saneamento. Vous connaissez cette mot, c'est comme dépuration, une purge, mais organisée de forme démocratique contre les gens dans l'entreprise d'État qui a collaboré avec la police politique ou avec des collaborationnistes comme en France depuis le défaite du nazisme. Cet saneamento, ils ont passés dans tous les secteurs excepté dans la justice. Dans la justice, il y a une culture de transition pacifique, pas de révolution. Ça, c'est qu'il y a une culture des dictatures, des hiérarchies profondément arriées dans la justice portugaise. Et qui, par exemple, Portugal, c'est un pays dont les femmes ont participé beaucoup parce que les hommes sont dans la guerre coloniale. Donc, les femmes sont assalariées massivement. À 1960, c'est quelque chose de différent de toute l'Europe. Et dans la justice, la discrimination, c'est absolument brutal aujourd'hui. Donc, nous avons des femmes dans tous les travaux hiérarchiques, etc. Mais dans la justice, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose, c'est pas seulement un problème d'inégalité, c'est vraiment un problème de conservatisme très fort. Il y a un juif qui a dit l'année dernière qu'une femme divorcée a été blessée par l'homme brutalement. Il a cité la Bible et le Coran. L'Alcoran, dans l'accord juridique. Ça, c'est qu'est-ce qui passe quand il n'y a pas de révolution dans la justice. Donc, au Portugal, ouais. Et je pense que la situation avec les femmes au Portugal, c'est plus meilleur et le parti de gauche dit, etc. Je ne suis pas d'accord avec les statistiques de salaire, etc. Mais dans la justice, je suis absolument d'accord. C'est une situation catastrophique.
Mais ce n'est pas seulement pour
bien, peut-être, je ne connais pas, mais peut-être. Qu'est-ce qu'il n'y a pas fonctionné? Ma opinion, la question des partis. C'est contradictoire, mais c'est vrai. Nous n'avons pas de parti, et ça a donné beaucoup d'espace pour l'auto-organisation de les masses dans les commissions des travailleurs, les petites soviets portugaises. Mais quand on n'a pas une partie forte révolutionnaire pendant une révolution, nous avons un grand problème. Parce que c'est un problème de stratégie. Par exemple, toutes les commissions des travailleurs et d'autogestion, etc., ils n'ont jamais coordonné dans un soviet congrès comme la révolution russique, parce qu'il n'y a pas parti forte qui peut coordonner ça. Et le plus parti forte qui organise la classe ouvrière sont le parti socialiste, ils sont contre la révolution, en fait. Et le parti communiste qui est contre la révolution aussi, ça c'est peut-être une surprise pour vous, mais le Parti communiste est fiel à l'Union soviétique et Portugal, c'est de la OTAN. Donc le Parti communiste, il veut les travailleurs, pas dans le soviet, mais dans le syndicat qui sont des démocraties représentatives. Pas la démocratie directe, donc la démocratie représentative. Et il veut de droite pour les travailleurs, mais droite à négocier avec le capital. Pas une auto-organisation, une indépendance de la classe ouvrière contre le capital. Et nous avons beaucoup de partis de gauche, d'extrême gauche, très fortes. Si on compare, par exemple, les stalinismes a été questionné pendant la révolution portugaise. Les partis d'extrême gauche, ils ont du pouvoir dans beaucoup des entreprises, mais absolument, je dis un petit chaotique, si je peux dire, pas chaotique, mais les gens sont très jeunes, avec pas des expériences comme par exemple le Parti communiste, parce que le Parti communiste est plus long, les plus expériences avec les cadres développés, etc. La extrême gauche n'a pas ça. Et ils sont beaucoup de partis, mais petites. Ils ont beaucoup, mais sont petites avec beaucoup de conflits internes, etc., etc. Là, vraiment, on parle d'une situation de retard de politique de Portugal. On ne peut pas inventer pendant 48 ans de dictature une société du point de vue organisé. Un jour, on organise les meilleures parties du monde. Ça, c'est impossible. Donc, je pense qu'un problème que, dès la révolution portugaise, c'est qu'elle est une révolution seule. Il n'y a pas une autre révolution en Europe à cette année. Et il y a un process en Espagne très intéressant. Ce n'est pas une transition pacifique en Espagne, une transition. Il y a beaucoup de morts en Espagne qu'en Portugal. Et en Grèce, c'est une situation radicalisée en Grèce, mais il n'y a pas il y a beaucoup de tourisme révolutionnaire, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment amoureux de la révolution portugaise dans le parti en Europe, mais il n'y a pas, est une révolution seule. Est une révolution qui a besoin de les autres. Il n'avait pas de les autres. Ça, c'est la vraie, la vérité, à ma opinion. Et qu'est-ce qu'il a resté? Il a resté beaucoup, mais il y a beaucoup qui a été détruit. Donc, il a resté beaucoup. Par exemple, sans faire la comparaison avec l'Espagne, il a resté beaucoup. La police au Portugal est dirigée par un syndicat dirigé par le Parti communiste. La police en Espagne, c'est une police franquiste, la garde civile. Si on fait cette comparaison, la enseignance publique en Espagne, c'est catholique, parce que c'est subcontraté. Au Portugal, non, c'est une enseignance publique universelle, laïque. Mais il y a beaucoup, il a resté une mémoire fantastique. Par exemple, la plus grande fête nationale au Portugal, c'est pas le jour de Portugal, mais c'est le 25 avril. toutes les associations de pompiers, de petites municipalités, des associations de football, des associations de localités, y faire une fête au 25 avril. Et ça, c'est pas une fête organisée par l'État, comme le jour de Portugal, donc une fête auto-organisée pour les gens pour célébrer la révolution. Il a une mémoire très forte de cette journée. Et ça, c'est quelque chose qui a resté au Portugal. C'est que nous sommes les uniques pays au Portugal qui n'a pas une partie d'extrême droite forte. Ça, c'est le plus grand effet de la révolution.
Ça, oui.
Il y a quand même un facho qui est rentré au Parlement.
Non, nous avons une fasciste au Parlement, ou un. Ah, ça c'est quelque chose, c'est un problème, mais je pense que pendant nous avons la génération de la révolution vivre, c'est impossible, nous n'avons un parti des masses d'extrême droite. Ça c'est l'effet plus grande de la révolution portugaise. Mais la majorité a été détruite et c'est absolument vrai que depuis la crise de 2008, ils ont ouvert les cantines publiques de l'école pour que les enfants puissent manger, les enfants de la classe pauvre qui travaillent. Ce n'est pas les gens seulement au chômage, c'est les gens qui travaillent 8 heures. Mais il y a une politique généralisée de salaire baixos.
De bas salaire
et des compensations assistentielles par l'État. Ça, c'est quelque chose qui est et la gauche n'a pas une point de vue, il est très peu critique avec ça. Parce que qu'est-ce que nous avons maintenant, c'est que les travailleurs, ils travaillent 8 heures, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas habiter, ils ne peuvent pas... Et toutes ces... c'est pas un droit salarial, c'est donné par l'État comme l'assistance. Et ça, c'est un grand problème et un problème que la extrême droite utilise aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut penser beaucoup, ma opinion. De militaire, c'est évident. La révolution, ça commence avec la révolution anticoloniale qui a un effet. Les militaires, surtout les capitaines, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas, surtout à Guinée, gagner la guerre. Ils organisent des mouvements de capitaines qui deviennent le mouvement de forces armées et qui font les coups d'État. Ils ne font pas la révolution, ils font un coup d'État avec un objectif militaire. Avec un programme démocratique politique, pas un programme révolutionnaire, mais beaucoup de militaires à devenir révolutionnaires avec la révolution. Ça, c'est très intéressant. C'est un process, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi parce que c'est une révolution. Par exemple, en Espagne, j'avais étudié la presse espagnole pendant la révolution portugaise et tout le monde en Espagne ne croit pas que les militaires sont à gauche parce que pour les Espagnols c'est impossible, non, les militaires, non, militaires, ça c'est fake news, c'est fake news. Pour trois mois il dit non, ça c'est pas vrai, il n'y a pas de militaires à gauche. C'est très intéressant de et comment recommence, ça c'est une question. Je dis ça, c'est difficile parce que mon français c'est pas un français académique. J'avais étudié beaucoup les révolutions pendant le 20e siècle. Je dis à vous, on fait pas la révolution. La révolution en Europe va devenir et on fait pas, on contrôle pas ça. Vous comprenez qu'est-ce que je dis? Les révolutions sont quelque chose qui c'est impossible jusqu'à le moment qui était inévitable, pour utiliser les mots de Trotsky. On ne décidit pas que la révolution. On peut écrire tous les journées, on fait une révolution. Ça ne marche pas. La révolution, c'est quelque chose qu'on ne contrôlait pas. Quand il débute, le début, qu'est-ce qu'on peut faire et préparer pour avoir un rôle dans la révolution? Ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter ici. Et ça, nous sommes, ma opinion, je vais faire tout le temps cette discussion parce que nous sommes dans les universités, les marxistes, les intellectuels de gauche, ou dans les syndicats, ou dans les partis, et on fait débattre sous tout. Mais on ne fait pas débattre sur qu'est-ce qu'on fait dans une révolution. On ne se prépare pas. ma opinion. On n'étudie pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Nous sommes tous hyperactifs, hyper militantes avec beaucoup de mouvements, mais on ne fait pas des études stratégiques qu'est-ce qu'on fait pendant un process révolutionnaire. Et pour moi, ça, c'est un problème parce que je crois que la révolution, c'est pas une chose du passé et c'est pas une chose de l'Amérique latine ou d'Afrique ou d'Asie. La révolution, c'est quelque chose qui va devenir plus fort, plus grand en Europe pour que le pacte social européen est fini. Qu'est-ce qu'on on a en Europe? Un moment exceptionnel des pactes sociaux parce qu'il a vraiment des droits de travail. C'est pas parce qu'il y a l'idéologie, etc. Ça, c'est tout vrai, mais le plus important, c'est qu'il y a des droits de travail. Et ça, c'est fini pour la majorité des opérants. Et ça va devenir inévitablement un procès révolutionnaire dans le pays central pendant notre vie. Je suis pas bon, je suis à Suisse, vous dites, oh, c'est mal, elle est fou, non? Je pense que qu'est-ce que nous avons regardé cette mobilisation massive en Espagne depuis 2008, une mobilisation massive au Portugal, la plus grande, les gilets jaunes en France. Toutes ces, c'est pas un mouvement révolutionnaire, mais sont un signal de que le pacte social marche pas. Et il faut qu'on débatte qu'est-ce qu'on fait à ce moment. Donc, je pense que ça, c'est une question d'urgence pour tout le monde qui pense à la gauche, parce que maintenant, le discours du libéralisme qui a collapsé, le libéralisme, il n'est pas hégémonique. Depuis demain, c'est les 30 années de 1989 à Berlin. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, le libéralisme, l'économie va croissance, croyez employés. Non, c'est dystopie. Qu'est-ce que les libéraux ont à dire à leurs opérants? Les dernières 10 années, seulement une phrase. C'est terrible avec nous, mais il y a de pire que sont les fascistes. Ils ont dit, non, on crée les emplois, on crée les théâtres, on crée les vacations dans le sud d'Espagne pour les Français, on crée... Ces discours, ces hégémonies du capitalisme a collapsé absolument. Ils n'ont rien à donner à le travailleur. Rien à donner. Mais les autres, la gauche, c'est en crise profonde, comme on se voit à tout le monde. Nous n'avons pas une discours antisystémique. Les discours antisystémiques de ces extrêmes droites, nous n'avons pas un discours antisystémique. Notre discours, c'est tous les jours comment contrôler, comment défendre les droits démocratiques, etc., etc. Ça, c'est un problème grave pour moi maintenant, mais c'est une grande discussion politique pour le futur. Mais c'est pour le futur proche.
Merci Raquel. Est-ce que tu veux encore deux questions?
C'est... Ah bon, c'est
non.
Comme...
Oui. Ah, quoi, non, ça. Non, de la musique. Alors attendez, stop.
Ouais.
Merci.
On fait la musique. Merci à toi.
Donc, il va y avoir de la musique. Moi, comme j'étais tellement émue à cause de la voix de cette magnifique chanteuse de Jessica, je connais, je suis désolée pour... j'ai pas retenu ton nom, mais en revanche, ta voix, je vais pas l'oublier. Donc, on va avoir de la musique. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est organisé, cette soirée est organisée par l'association 25 avril et Solidarité Genève, que il y a vers la table à côté de l'apéro un petit un chapeau, un gobelet, voilà, un gobelet, bon, dans lequel on vous invite très chaleureusement à mettre quelque chose que vous pouvez, hein, pour le déplacement de Raquel, l'apéro, la location de la salle, etc. On n'est pas, voilà, Solidarité est un parti anticapitaliste, donc il n'est pas très riche. Et puis, l'association 25 avril non plus, donc oubliez pas, voilà. Et puis, l'apéro après les chansons, eh ben, c'est aussi à votre bon cœur, hein, le prix libre pour celles et ceux qui ont faim, soif et plus, s'y entendent. Voilà.
Merci.
Merci à vous. Merci à vous.